Utopode 005, 5 mai 2007. Les noces d'orage de Jonas Lenne. Deuxième partie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième numéro d'Utopode, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Je m'appelle Marc Tiefenauer et je coproduis ce podcast avec Lucas Moreno. Le principe de notre émission est le suivant. À chaque épisode, nous vous proposons la lecture d'une nouvelle francophone de science-fiction, de fantastique, de fantasy ou d'un genre littéraire apparenté. Si vous souhaitez en savoir plus sur le concept d'Utopode ou sur l'émission de ce jour, notre site vous attend à bras ouverts à l'adresse www.utopode.com. Dans le précédent épisode, nous vous avons livré la première partie des Noces d'orage de Jonas Lenne, parue initialement en septembre 1999 dans l'anthologie Jour de l'an 1000 aux éditions Nesti Vecnan. Nous vous proposons aujourd'hui la deuxième et dernière partie de cette nouvelle. Le texte est lu par Rita Gay. Vous en saurez davantage sur cette œuvre, sur son auteur et sur notre lectrice, dans l'introduction de l'épisode précédent ainsi que dans l'article de présentation sur notre site. Et maintenant, servez-vous une bonne rasade d'hydromel ou une pleine assiette de tête d'agneau calcinée et place à la littérature.
Les Noces d'orage de Jonas Lenne. Deuxième partie. Un peu plus tard dans la saison, je tuais les journées, errant, seul, sur le bord des falaises, chevauchant par les collines et les forêts. Plus que l'idée de devenir la femme de Soustre, l'absence de Wotan me torturait. J'aurais donné le reste de ma vie pour le revoir un instant, effleurer sa peau et baiser ses lèvres. Je songeais parfois à me noyer dans l'eau d'un marécage ou d'un lac pour abréger ma souffrance. Ma vie sans la sienne n'était qu'une odieuse plaisanterie. Je projetais 100 fois de m'enfuir pour aller le retrouver, mais la pensée de l'opprobre qui rejaillirait sur ma famille me fit renoncer. Un matin, j'ai décidé d'aller chasser au vol pour la dernière fois. Mon faucon blanc fut-il conscient de quelque chose? Il montra en tout cas beaucoup de nervosité pendant que je chevauchais vers les hauts plateaux. Après l'avoir lancé une demi-douzaine de fois sans qu'il y ait aucune proie, je sus que la magie qui nous avait unis, l'oiseau et moi, s'en était allé. Près des tumulus qui bordent le chemin du sud, je descendis de cheval. Au bord de l'abîme surplombant le bras de mer, je décapuchonnais le faucon blanc qui m'avait appartenu. Il m'observa un long moment, inclinant sa tête de droite et de gauche, puis il avança son bec jaune pâle comme pour m'embrasser. Lentement, de façon presque rituelle, je défis ses entraves, la bride qui enserrait ses ailes et le grelot attaché à sa patte. Alors, après avoir déposé un baiser sur son bec, je le lançai une dernière fois, au-dessus du vide. D'un puissant battement d'ailes, l'oiseau se hissa dans les airs. Longtemps, il décrivit d'amples cercles au-dessus de moi, poussant des sifflements inquiets en attendant le rappel au point que je ne ferai jamais. Je lui criai de s'en aller. « Je te rends ta liberté. » Sois heureux en souvenir de moi. » L'oiseau cessa de tournoyer. Il vint flotter près de moi, aile déployée. Puis, dans un dernier cri, il piqua vers les plages de gravier, rasant la cime des arbres accrochés au flanc escarpé du fjord. « Adieu » braillai-je en hoquetant de chagrin. Un peu plus tard, un vent de mer se leva sur la lande ensoleillée, effeuillant les coquelicots jaunes dont les pétales d'or vibrillonnèrent dans la lumière du jour. On aurait dit des milliers d'esprits aériens descendus du ciel pour m'enlever et me conduire au-delà des étendues marines dans une contrée où nul ne m'empêcherait d'aimer Wotan. Quand je redescendis dans la vallée, je fis un détour pour revoir le lieu où s'était tenu le Thing. Quelle ne fut pas ma surprise en apercevant un baraquement solitaire, planté à l'orée d'un bois de bouleau, non loin du terrain qui avait accueilli la partie de Knatlaikr. Le cœur cognant, je galopais jusqu'à l'abri, soudain prise d'un fol espoir. Hélas, personne ne s'y trouvait. Qu'avais-je imaginé? Que Wotan serait là, devant la tente, à m'attendre depuis plusieurs jours? Je m'injuriais, pauvre folle que j'étais, tellement malheureuse de ne pas voir mon rêve exaucé. Le cri plaintif d'un pluvier doré me fit tourner la tête. Wotan était là, à quelques pas de moi, portant une brassée de bois mort. « Veux-tu m'aider à faire le feu ?» demanda-t-il en s'efforçant de sourire alors que tout en lui trahissait une agitation intense. Je sautai de cheval pour courir vers lui. Dans la mousse et les bruyères, nos sangs impatients se mêlèrent. Je lui fis l'offrande des fleurs de mon enfance, sans penser aux démons que ne manquerait pas de libérer ce lien éphémère. Tandis que Houtan allait et venait en moi, mes yeux grands ouverts buvaient au ciel infini comme dans le Saint Calice. J'assimilais la jouissance qui montait dans ma chair à l'ascension du faucon blanc, au battement puissant de ses ailes. Mon bien-aimé me transporta en ce lieu étrange où les sanglots et les cris naissent du plaisir. Une vague brûlante m'emporta enfin, après maintes hésitations, telle une mort heureuse, semblable à un vol piqué sur l'abîme, toute rémige déployée, sans bride ni entrave. Cette réjouissance de l'être charnel, je ne l'ai retrouvée que dans l'extase mystique. Non, mon enfant, il n'y a rien de blasphématoire dans mes paroles, et je serais bien étonnée que notre Créateur n'ait pas ménagé plus d'une voie pour nous permettre de l'atteindre. Houtan ne repartit pas tout de suite vers son clan. Plusieurs jours de suite, j'allais le retrouver, me donner à lui. Ses mains et sa bouche connaissaient la magie des caresses qui font oublier le monde. J'aimais son corps, la douceur de ses bras, la délicatesse de ses traits que la pratique des armes n'avait pas endurci, son esprit aiguisé comme celui d'un poète, d'un skald. Lorsque nos corps étaient là, il dénouait mes cheveux et les peignait tout en me murmurant au creux de l'oreille la splendeur dure et glacée des anciennes sagas. Vint le temps des expéditions. En me quittant, Houtan promit de revenir avant l'hiver. Il projetait de m'enlever, voler un kneur avec quelques hommes et faire voile vers l'ouest, vers un continent lointain dont un vieux skald lui avait parlé. Il jura, lui vivant, Soustre ne toucherait pas un seul de mes cheveux. Je souris à mon amant, le cœur déchiré, car je savais qu'il fallait jouir de cet ultime instant et ne pas refuser ce qui devait être accompli pour le bien du clan. Les choses ne pouvaient en aller autrement. Un lien avait été noué entre les ennemis d'autrefois, un lien d'autant plus attendu qu'il souderait deux familles et deux fortunes, assurant à chacune une plus grande autonomie face aux visées hégémoniques des clans du Sud et de leurs rois. Ce que fit Houtan après que les bateaux furent rentrés chargés de butin m'a été rapporté, mais j'ai tant de fois imaginé cette scène qu'il me semble y avoir participé pour de bon, et aujourd'hui je n'ai plus besoin de fermer les yeux pour l'évoquer. Houtan alla voir Gamla, un vieux cerf affranchi qui habitait dans les marais, parlait aux dieux et leur offrait parfois le gîte. Ils étaient assis de part et d'autre du feu à l'entrée d'une faille, une caverne étroite et peu profonde que Gamla appelait « mon palais » en ricanant. Houtan se confia sans crainte. Au terme du récit, le sorcier eut un rire de vieux poney. Il plongea son regard chassieux dans l'épaisse fumée du feu de tourbe qui gardait le seuil de son sanctuaire, puis ramassa sur un lit de feuilles une poignée de poudre noire qu'il jeta dans le foyer. Les flammes se gonflèrent un instant et Gamla rit encore une fois, comme on redemande à boire. « Tu as besoin des services de Loki, le magicien qui engendre le désordre, père du grand serpent cosmique dont l'étreinte supporte le monde. » Fourrageant sa barbe broussailleuse, le vieux fou en extirpa un anneau d'or rouge où flamboyait un serpent se mordant la queue. Il agita alors son bras étique et fit teinter les grelots qui ornaient l'objet rituel. « Notre monde est à portée d'oreille du séjour divin. » Les morts et les entités surnaturelles informent les mortels, les aident souvent. Demande et donne en échange, mais prends garde. Loki est un dieu, et les dieux ont l'humeur changeante.
Que Loki me vienne en aide, sollicita Houtan, sans l'ombre d'une hésitation.
À nouveau, Gamla projeta une poignée de poudre dans le feu, tandis que tintinabulait l'anneau rougeoyant. Après quoi il scella ses paupières et de sa bouche édentée entonna un chant aux accents lugubres. D'abord une litanie lente et hypnotique, rythmée par une pulsation régulière comme un battement de tambour souterrain, puis une sombre prière,
une plainte scandée qui monta en puissance, changeant de plus en plus souvent de rythme, entrecoupée de silences vertigineux et de cris gutturaux. Le corps de Gamla s'agitait en cadence, parfois pris de convulsions ou s'effondrant sur lui-même avant de rejaillir tel un démon. Les gestes et le chant de Gamla se calmèrent enfin, sans pour autant s'éteindre. Le vieux sorcier avait atteint le but de son voyage dans l'autre monde. L'air s'était refroidi à l'entrée de la grotte. Wotan sentait autour de lui une présence magique, perceptible bien qu'inaccessible à ses cinq sens. Au milieu du galimatias rauque et incantatoire de Gamla, Wotan comprit qu'on lui demandait de parler. « Seigneur Loki, dit-il, j'en appelle à ta magie pour empêcher le mariage d'Inga la Belle avec Soustre. Mais il faudra qu'on croie Inga morte, victime de la colère aveugle de créatures démoniaques. Si elle venait à savoir la vérité, nos familles se déchireraient pendant des générations. » Un tintement frénétique de grelots ponctua la requête de Wotan, qui se souvint des mots que Gamla avait prononcés avant d'entrer en transe. « Demande et donne en échange. » Aussi, il ajouta, « Je t'offrirai un serviteur d'une grande force, un berserker. Il y a près d'ici deux ifs millénaires dressés tels d'antiques sentinelles. Le premier qui franchira ce seuil t'appartiendra. » Wotan parlait de Soustre, bien entendu. Il avait imaginé un piège pour nous débarrasser de lui. Le pacte fut donc scellé. Je ne sus rien de tout cela jusqu'au dernier moment. Pour moi, la fin de l'été ressembla à une agonie silencieuse. Afin de ne pas trop penser à ce qui m'attendait, je m'abrutissais à la tâche. Il y avait beaucoup à faire pour nous préparer à la saison froide et je voulais profiter des derniers instants passés en compagnie des miens. Bientôt, ce serait l'hiver, le temps de la glace et de l'effroi, du long et interminable crépuscule. Un autre hiver m'attendait, plus intime, mais tout aussi glacé et crépusculaire. Celui-ci ne connaîtrait ni printemps, ni dégel. Et ce fut une des dernières journées d'été. Le foin séché était entreposé, le bétail à l'étable. On avait fait provision de salaisons de poissons et de viande. La bière nouvelle était brassée. La veille du jour oni de mon mariage, mes larmes coulèrent sans discontinuer, sans que rien ne fût en mesure de les contenir. Le ciel était bas, d'un gris presque noir, comme en écho à mon chagrin, il plut tout le jour. L'averse faisait rage, une eau cinglante et noire qui ressemblait à mes pensées. Les messagers de la maison de Fenrir vinrent me chercher pour m'escorter à travers les marécages et les bois jusqu'à la demeure de mon époux. Un grand banquet y aurait lieu le lendemain, auquel seraient conviées les deux familles et de nombreux amis. Là-bas, on m'attendait pour me donner le bain de la mariée, en compagnie des demoiselles d'honneur. Celles-ci avaient confectionné la couronne de fleurs et de feuillages dont on parerait ma tête le jour de la noce. Dans quelques heures, on poserait sur mon visage le voile de lin et mes cheveux seraient noués en chignon comme ceux des femmes qui ont reçu époux. Puis on pendrait à ma ceinture le trousseau des clés du foyer. Je ne voulais pas de cela. Pourtant, je quittais ma maison. Dans la nuit térébrante, sur le chemin pavé qui traversait les marais, une ombre gigantesque barra soudain notre route. Les chevaux se cabrèrent, à l'exception du mien qui demeura étrangement serein. Des hurlements fusèrent autour de moi. Les hommes qui m'escortaient tentèrent de se déployer pour contenir l'assaillant, mais l'ombre était partout, insaisissable. L'obscurité semblait remplie de créatures invisibles qui soulevaient le vent et déchaînaient les éléments. La pluie devint tempête et un puissant orage éclata au-dessus de nous, vomissant sa foudre mortelle sur mon équipage qui fut rapidement taillé en pièces. Sa besogne terminée, l'ombre sans visage se ramassa et je me sentis soulevé de terre. Pétrifié d'horreur, je fus transporté auprès de Wotan. Pendant ce temps, son plus jeune frère, Knut, s'était rendu auprès de Soustre. Afin d'attirer celui-ci dans le piège qui le livrerait à Loki, le cadet de mon bien-aimé devait raconter qu'il avait été le témoin involontaire de la tragédie et qu'un démon m'avait emporté à travers les marais, en direction du tertre où nous nous trouvions. apprenant ma disparition, Soustre se lancerait à ma recherche. Au bout du chemin, il trouverait les deux ifs, dans l'écorce desquels Loki avait gravé de puissantes runes magiques. On entendit bientôt monter une clameur lointaine, des aboiements, des cris d'hommes et le son des cornes. Au loin, des torches dansaient dans la brume qui se levait sur le marais. Une compagnie nombreuse s'approchait de nous. Soustre marchait vers son destin. Mes yeux ne pouvaient se détacher des deux ifs, deux noires colonnes ciselant l'obscurité. La magie des runes gravées dans l'écorce grésillait derrière les rameaux denses. On aurait dit les mâchoires d'une chimère nocturne prête à se refermer sur le demi-troll. La clameur s'intensifiait. L'orage, qui pendant un temps avait fait mine de s'apaiser, semblait vouloir reprendre de la vigueur. Plus d'une fois, la foudre abattit ses doigts incendiaires sur des arbres aux formes torturées. Un éclair plus violent que les autres blanchit la nuit. Lorsque la lumière aveuglante reflua de mes yeux, je vis le berserk émerger du brouillard à quelques pas de nous. Comme Utan l'avait espéré, Soustre avait pris la tête de l'abattu. Il retenait au bout d'une corde deux molosses écumants, aux crocs dardés comme des poignards. Trois hommes armés, portant des torches, accompagnaient celui qui ne serait jamais mon époux. Knut n'était pas loin. Rejoignant Soustre, il tendit son bras en direction des ifs. Le berserk sonda la nuit d'un air méfiant. « Prends les chiens !» fit-il à l'intention d'un de ses compagnons qui s'empressa de lui obéir. Les mains libérées, il souleva sa cape de laine et sortit de son fourreau une lourde épée. Un nouvel éclair fit luire la garde d'argent ouvragée de l'arme et illumina le visage du guerrier fauve, masque de folie où se mêlaient l'effroi et le désir de meurtre. Brandissant son bouclier rond, Soustre s'approcha des ifs, prêt à donner la mort. Il se figea soudain. L'obscurité m'empêchait de lire sur sa face l'explication de cet arrêt. Il revint en arrière, détacha un chien et le lança dans notre direction. Au passage de l'animal, les runes se déclenchèrent, libérant la magie néfaste des troncs d'ifs. Le molosse se figea d'un coup, prisonnier d'invisibles raies. S'avisant de l'erreur, Loki sombra dans la fureur et hurla à la trahison. Une armée de créatures fantomatiques se déploya autour de lui. Un mugissement déchira l'air en réponse à la vocifération du dieu. Dans la clarté fulgurante, je vis les traits déformés de Soustre. Sa bouche béante vomissait un cri de haine pure. Les jambes arquées, prêts à bondir, il faisait front. La folie incendiait ses yeux écarquillés. Ses hommes s'enfuirent sans demander leur reste. Le guerrier fauve se jeta sur les ombres qui obéissaient à Loki au doigt et à l'œil. Une danse meurtrière commença dans la boue. Investi de la démence de son maître, l'épée de Soustre tailladait les rangs chimériques qui se reformaient au fur et à mesure. Malgré la rage qu'il habitait, le demi-troll fut bientôt encerclé. Écrasé par le nombre, il continua de se battre avec ses dents et ses ongles. Loki s'avança alors pour lui donner le coup de grâce et l'écrasa comme un vulgaire insecte. Le dieu se retourna ensuite contre nous. Il calcina le visage de Gamla et, pour achever sa vengeance, fit souffler un vent de folie qui dévora l'esprit de Wutan. Quant à moi, il me permit de vivre afin que je fusse la mémoire de cette nuit atroce. Loki disparut ensuite dans un ouragan, enlevant Knut. Tandis que la tempête s'estompait, je vis s'éloigner dans les airs un faucon de ténèbres dont les griffes enserraient une proie désarticulée. Je me cachai dans les marais et passai l'hiver auprès du sorcier. Malgré ma tendresse et ma patience, malgré les prières du vieux nécromant, le bleu cendré des yeux dans les marais et passai l'hiver auprès du sorcier. Malgré ma tendresse et ma patience, malgré les prières du vieux nécromant, le bleu cendré des yeux de Wutan demeura éteint. Et puis, une nuit, il disparut. Jamais je ne le revis. Après des années de vaines recherches, je trouvai un semblant de paix au sein d'une communauté de femmes qui priaient un dieu que je ne connaissais pas. Elles avaient bâti leur monastère de l'autre côté de la mer, au sud de mon pays natal, dans ce royaume nouvellement converti au christianisme par Harald à la dent bleue. Bien sûr, je parle de nos sœurs et de notre moutier. Fatiguée de mon errance, je décidai de rester auprès d'elles. J'appris que j'étais une païenne et qu'il existait un dieu mort par amour pour l'homme. Quelques années plus tard, une voyageuse vint demander asile à notre porte. Elle fut traitée comme l'une des nôtres. Pendant qu'elle se restaurait, faisant cercle autour d'elle, nous l'entendîmes raconter l'histoire d'un voyageur insensé qui allait d'un village à l'autre pour mendier sa nourriture. Un homme aux yeux d'un bleu tirant sur la cendre. Un conteur sans rival qui colportait d'étranges récits. À sa manière, elle nous rapporta une histoire qu'elle avait entendue de la bouche de celui-ci. Des larmes coulèrent sur mes joues tandis que les mots résonnaient dans l'obscurité du réfectoire, comme un écho aux images évoquées par mon esprit. Dans l'ombre, la femme m'observait. Un instant, je crus déceler dans son regard une lueur de cruauté. Ce soir-là, Loki m'avait envoyé une messagère, à moins qu'il ne se fût déplacé en personne pour raviver en mon cœur le souvenir de mes funestes noces. Dieu merci, notre Seigneur Jésus-Christ a su consoler mon cœur. Il est mon berger. Toutes ces années, j'ai porté sa bonne nouvelle et mille joies m'ont été données en retour. Depuis la grande pierre de Jelling, ornée du symbole de la crucifixion, les vertes vallées de ce royaume ont vu fleurir les blanches églises de bois. Un jour, ce manteau immaculé couvrira le monde. Je me souviens de ma première visite à Hoar. Ta mère n'était probablement pas encore née. J'ai raconté la vie de Christ à une ribambelle d'enfants, plus curieux qu'attentifs, et à quelques vieillards oisifs. J'ai vu parfois l'hostilité dans le regard des adultes qui me surveillaient de loin, mais à force de patience réciproque, leur cœur s'est ouvert. Dans un mois, ils recevront l'évêque du diocèse qui consacrera le temple chrétien qu'ils ont édifié. 1000 ans ont passé depuis la naissance du Sauveur. Un nouveau millénaire a commencé. Nous sommes à l'aube d'une ère qui verra l'avènement d'un royaume de repos et de paix. Je prie pour que chaque homme ici-bas trouve la quiétude qui m'a été accordée. Mais tu trembles, mon enfant. Oui, l'air s'est rafraîchi. Je ne sens plus le baiser tiède du soleil sur ma peau. Tu as raison. Il est temps de rentrer à présent. Bientôt la cloche sonnera les vêpres et nos sœurs risquent de s'inquiéter. Mais laisse-moi encore un instant humer le vent du large. Une dernière fois peut-être. Qui sait si j'aurai la force de grimper jusqu'ici demain. Utapa.
Messieurs, mesdames, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous invitons à laisser un commentaire sur notre site www.utopod.com en cliquant sur le lien à la fin de l'article de présentation de l'émission d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast, n'attendez plus, faites-le en quelques clics sur utopod.com. Utopod est un projet à but non lucratif. Nous travaillons bénévolement. Seuls les dons et le parrainage nous permettront de poursuivre l'aventure d'Utopod en rémunérant nos auteurs. Si le cœur vous en dit, cliquez sur le symbole euro au bas de notre site. Une dernière précision, le contenu de nos émissions, ainsi que les textes que nous lisons, sont soumis aux conditions d'utilisation d'une licence Creative Commons, à savoir, paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. En bref, vous pouvez écouter, copier, partager nos émissions gratuitement, pour autant que vous ne les modifiez pas et que vous n'en fassiez aucune utilisation commerciale. Quel qu'en soit votre usage, nous vous demanderons de toujours mentionner clairement leur paternité et leur source. Ainsi s'achève cette émission. À bientôt pour Utopod 006. Au revoir.